Bonjour, professeur.
Bonjour.
La nouvelle équipe de la CENI a enfin prêté serment devant la Cour suprême de justice le week-end dernier. Selon vous, quels sont les défis qui attendent l'équipe de l'abbé Apollinaire Malumalu?
Le premier défi, c'est peut-être le plus important, c'est de gagner la confiance des citoyens, parce que dès lors que le projet de la nouvelle CENI a été lancé, il y a eu des débats de toutes sortes. Bon, il faut voir maintenant si la crainte que les gens ont par rapport aux deux CENI passées et à celle-ci vont être levées, parce que les défis qu'on a sont assez nombreux et importants. Il y a d'abord un retard par rapport au calendrier électoral, et plus globalement, il y a le défi de la confiance des électeurs et de la confiance des acteurs politiques. En 2006 déjà et en 2011, on a vu que la confiance n'était pas là. Est-ce que cette fois-ci, la confiance va revenir? Les gens se posent beaucoup de questions, aussi bien dans les partis que dans la société civile.
Oui, puisque vous parlez des acteurs de cette CENI, nous savons qu'ils doivent normalement chercher à gagner la confiance de la population. Nous savons que le retour de l'abbé Apollinaire Malumalu a été au centre de beaucoup de controverses. Quels sont les défis qui attendent l'abbé Apollinaire Malumalu?
Je dirais que techniquement, si on compare les élections de 2006 et celles de 2011, l'abbé Malumalu s'était plutôt mieux débrouillé que la CENI de 2011. Maintenant, par rapport au calcul des résultats, il y a eu des polémiques très très vives en 2006. Il ne faut pas oublier que nous avons été près d'une guerre civile à Kinshasa. Bon, entre-temps, l'abbé Malumalu a gagné en expérience, évidemment, et on peut se demander s'il a bien tiré les leçons de 2006 et puis les leçons des autres expériences dans d'autres pays africains. Il faudra surtout qu'il montre qu'il est totalement indépendant des forces politiques en présence, notamment de celles qui détiennent les leviers du pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et deux, que sur le plan simplement matériel, qu'on évite tous les déboires qu'on a connus, notamment en 2011, les retards dans l'acheminement du matériel, les soupçons sur les modes de calcul. Il faut vraiment un gros effort de transparence et de pédagogie de sa part pour gagner la confiance des citoyens et que nous ayons enfin ces élections sur lesquelles tout le monde sera à peu près d'accord.
En parlant du processus électoral en RDC, nous savons que les élections ont toujours souffert de la non-organisation au niveau local, c'est-à-dire des élections locales depuis 2006. C'est peut-être ça aussi un défi de taille qui attend également cette équipe.
Oui, bon, dans les grands centres urbains, je veux dire, ça se passe à peu près comme il faut. Bon, l'une des questions qu'il y a, c'est que nous sommes quand même en guerre dans certaines régions du pays, et comment ça va se passer là-bas, compte tenu du fait que ce sont des régions très sensibles aux frontières de la République, et aussi que ce sont des régions démographiquement importantes. Il y a une sorte de contradiction à vouloir préparer les élections, c'est bien sans résoudre en même temps la question de la pacification complète du territoire.
Oui, professeur. Par ailleurs, nous savons que la nouvelle CENI se diffère de l'ancienne par sa composition. Désormais, c'est une équipe avec une assemblée plénière et un bureau. Comment entrevoyez-vous le fonctionnement de ces organes et la cohabitation entre les membres?
Ça, sur le papier, ça peut fonctionner. Maintenant, bon, vous savez qu'il y a les personnalités individuelles des uns et des autres. Il y a des égos qui peuvent jouer. Il y a peut-être aussi, je dirais, le poids social de chacun. Est-ce que dans les débats internes, tous ces gens auront le même poids, la même influence? Ce n'est pas sûr. Certains ont des portes d'entrée largement ouvertes auprès des partis, du pouvoir ou de l'opposition, auprès des fonctionnaires les plus élevés de l'État. Tout ça fait que formellement sur le papier, techniquement, ça peut marcher, mais maintenant, c'est comme une voiture, tant que vous ne l'avez pas démarrée et que vous n'êtes pas en situation de vie, vous ne savez pas si elle va effectivement répondre. En fait, c'est en acte qu'on doit les juger et pas dans les intentions et dans la forme.
Est-ce que dans un premier temps, on peut se dire qu'avec une assemblée plénière, ce serait donc une petite garantie de la démocratie et peut-être une marge qui permettra à l'équipe d'être indépendante?
Oui, la plénière fait que, en effet, les uns et les autres vont pouvoir s'exprimer. Il y aura effectivement un débat. Maintenant, c'est comment la décision va être effectivement prise. Nous savons que dans notre pays, même si la discussion se fait de la manière la plus transparente, au moment de prendre les décisions, il y a quelquefois des surprises dans le vote. Et on sait pourquoi les gens se retournent pour voter de telle manière plutôt que de telle autre. Et puis, il y a la répartition des pouvoirs à l'intérieur des personnels, la voix du président, celle des autres membres. Bon, il y a une sorte de saucissonnage des décisions qui peut peut-être instaurer une sorte d'équilibre, mais c'est dans le fonctionnement qu'on va voir ça. Parce que sans ces uniques crédibles, l'élection ne sera pas crédible. Donc, il faut qu'on gagne le pari de la crédibilité, le pari de l'efficacité et de la transparence, sans doute aussi le pari de la pédagogie et de la communication pour que tout le monde est véritablement confiant. Peut-être que l'abbé Maloumalou, ayant l'expérience de la première CENI, des critiques qui lui ont été faites, tirera la leçon de ce passé pour bien réussir dans les mois et les années à venir.
Vous parlez tantôt de poids social de chaque membre dans cette CENI. Nous le savons, ils émanent presque tous des familles politiques, quand bien même certains sont de la société civile. Seront-ils à même, selon vous, de se départir de la pesanteur politique de leur parti politique?
Moi, je fais peut-être un peu plus confiance aux membres de la société civile qu'aux représentants des partis. Tous étaient très conscients des enjeux des élections à venir.
Mais ils ne sont que trois dans une équipe de 13.
Mais bien sûr. Quand nous avons discuté longtemps, nous on avait demandé qu'ils soient au moins 6, peut-être la moitié pour être nombreux. Là, ils sont un peu dilués hein, dans cette séance. La grosse difficulté que nous avons, c'est que quand on est membre d'un parti, on sait le parti, mais on ne pense pas que le parti est là pour servir les intérêts de la nation.
Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous.